Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Tous fragiles, voilà l'une des réalités que l'on a beaucoup entendues à l'occasion de cette pandémie du coronavirus qui, espérons-le, finit en France. Tous fragiles, c'est un peu le fil rouge de nos films de ce matin. La fragilité économique et toutes ses conséquences pour les virtuoses de Mark Herman. L'histoire d'une fanfare d'ouvriers qui finit au Royal Albert Hall à Londres. La fragilité psychique, avec Shine de Scott Hicks. L'histoire vraie d'un pianiste de génie laissant passer la lumière de sa musique à travers ses failles. La fragilité de la foi avec Jeanne de Bruno Dumont. L'histoire très originale d'une Jeanne d'Arc dont la fragilité assumée devient une force extraordinaire. Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Enfin, pour rappel, c'est que normalement, on vous avait rendez-vous le premier vendredi de chaque mois, c'est pour ça. Avec nous, donc, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence, mercredi 19-20h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Paul Dima, animateur de retraite cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous également.
Content de vous retrouver, vous qui avez pu rentrer dans le sud-ouest. Alors, trois films à l'affiche, je les ai annoncés, Les Virtuoses, Shine et Jeanne. On va commencer comme d'habitude par Les Virtuoses, donc c'est de Mark Herman. On va écouter le début de la bande-annonce parce que la bande-annonce est en anglais, mais ça nous mettra un peu dans l'ambiance et on avance après.
Bloody money, no bloody job, and what are you gonna do? Juggle!
Bit clumsy with the crockery, old Sandra.
Ooh! 10 years ago, you were so full of fight. Now you just blow your bloody trumpet.
It's a bloody euphonium!
Gloria Mullins.
You had it.
Voilà, c'est les débuts. On s'arrêtera là parce qu'il paraît que les Français ne sont pas tous bilingues. L'histoire, donc, c'est au milieu des années 90, dans un petit village...
80.
Ah oui, le film, au milieu des années... D'accord, au milieu des années 80, oui, chef, dans le petit village de Grimley, dans le nord de l'Angleterre, des mineurs et leurs familles se battent contre la fermeture de leur mine. Ils ont la bonne idée de créer une fanfare pour essayer de retrouver leur dignité. Cette fanfare va aller loin, je l'ai dit, et on le découvrira au long de l'émission. Louis-Marie, comme à chaque fois, complétez cette courte présentation.
Ben, je vous ai repris parce que ça concerne, c'est dans Les Virtuoses, on voit le point culminant des longues luttes ouvrières dans le Yorkshire. Et c'est là qu'a eu lieu, c'est le berceau de la révolution industrielle britannique au 18e siècle. Et au milieu des années 80, il y a eu une longue grève dure entre 1984 et 1985, et les mineurs furent contraints de reprendre le travail jusqu'à la disparition progressive de leur emploi. Ce sont les fameuses années Thatcher, quand elle a méthodiquement fermé toutes les mines britanniques.
La dame de fer. Peut-être même sans gants de velours. Alors, les protagonistes, Louis-Marie. Danny, on va commencer par Danny.
Ben Danny, il est à la retraite, lui. Il est à la retraite et il est resté le chef d'orchestre de cette fanfare. C'est une fanfare imposante. Elle n'est pas composée d'une dizaine de musiciens. Ils sont une bonne quarantaine.
Et viril,
oui. Et il n'y a que des hommes. Et pour participer à cette fanfare, il faut avoir été mineur. Et ils font une entorse parce qu'il y a un personnage qui va débouler dans le film, la jeune Gloria. Une femme, c'est la seule femme qui va jouer dans cette fanfare. Pourquoi ? Parce qu'elle est née à Grimley, le village, la ville où se trouve, c'est pas un village, une petite ville où se trouve la mine. Et donc à ce titre, elle peut intégrer la fanfare de la mine.
Et elle est aussi la petite fille d'un joueur de la fanfare qui est extraordinaire.
Et le meilleur ami de Danny.
Si on continue par les personnages, parce que ça compte un peu aussi l'intrigue, On a un certain Phil, qui est un homme, on va dire, clé dans le film. Dites-nous quelques mots. Phil, c'est celui qui est toujours entre espoir et désespoir dans le film.
Exactement. Et puis, il est déchiré entre sa famille. Il a une famille nombreuse et il tire vraiment la vache par la queue, c'est le moins qu'on puisse dire. Les créanciers sont à sa porte, quand il ne passe pas la porte, d'ailleurs. Et puis, il est aussi le fils de Danny. Et c'est très, très ennuyeux. Parce qu'il doit faire partie de la fanfare obligatoirement, et son instrument doit être de bonne qualité. C'est important, parce que son trombone part en lambeaux, si on peut dire ça comme ça.
Alors, dans le casting, il y a aussi Andy. J'ai souvenir que pour qu'un... je crois que c'est une étude américaine qui a prouvé ça. Pour qu'un groupe marche, il faut un leader charismatique, une belle, et puis quelqu'un de... Et le rigolo de service. Là, on va dire le beau gosse de la bande, c'est Andy.
Andy, c'est le beau gosse, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune des personnages de la fanfare qu'on voit, parce que comme on l'a dit, la fanfare est imposante. Il y a 40 musiciens, donc on n'en suit qu'une petite poignée. Et Andy, c'est le plus jeune, c'est celui qui est... il a une ancienneté dans la mine la plus faible par rapport aux autres qui ont de l'expérience, qui sont descendus dans ce trou. Il se trouve qu'il a été en classe avec la fameuse Gloria et qu'il y a quelque chose entre eux. C'est là que va se nouer la romance de ce film.
Alors, cette fanfare, on va dire, gravit les échelons sur fond donc de ce contexte social et du combat de ces hommes, jusqu'à aller à Londres, au Royal Albert Hall pour un championnat national des fanfares, et finit par triompher. Je ne sais pas quels sont les autres points de l'histoire que voulait souligner Paul.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est dans une ville qui est en perdition, parce que tout ferme, les couples se séparent, divorcent, mais sont confrontés à la misère, quoi. Leur travail va disparaître, tout ferme. Et ce qui les tient, c'est cette fanfare. Mais ce qui les tient enfermé aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils continuent à s'investir dans la fanfare alors que tout part à l'eau. Mais c'est en même temps, c'est ce qui les tient debout. Et alors, la Gloria qui arrive comme un rayon de lumière d'abord n'est pas bien acceptée, parce qu'on est entre mecs quand même. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici?
Oui, mais comme elle est mignonne, ça passe.
Ça passe quand même. Mais elle a le handicap d'être du côté peut-être de la direction, puisqu'elle doit faire un rapport qui va décider ou non de la fermeture.
Et on s'apercevra plus tard. Commission chargée éventuellement de liquider la mine.
Voilà. Donc, est-ce que elle est acquise au patronat ou est-ce qu'elle est du côté des mineurs?
On va écouter un extrait, même si c'est un extrait qui parle de la fin. Et puis, je vous laisserai dire le reste.
Il va pratiquement tout dire.
Voilà, c'est la fin. Ils sont au Royal Albert Hall et ils viennent de donner leur morceau pour ce championnat national des fanfares.
Les membres de ce brillant orchestre vous diraient que ce trophée a plus de valeur pour moi que toute autre chose au monde. Mais ils auraient tort. La vérité, c'est que je l'ai cru. J'ai cru que la musique était importante. Mais c'est si peu de choses comparées aux hommes. C'est les individus qui comptent. Le fait qu'on ait remporté ce superbe trophée n'intéresse pas grand monde. Par contre, si nous le refusons en public, comme nous allons le faire maintenant, le pays entier va se tourner vers nous. Vous voyez bien, de cette façon, je ne parlerai pas pour rien. Parce que depuis une dizaine d'années, ce putain de gouvernement a systématiquement détruit une industrie tout entière. Notre industrie. Et pas seulement notre industrie. Nos communautés, tous nos foyers et toutes nos vies. Et tout ça, au nom du progrès et pour quelques sales shillings. D'ici, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Il y a 15 jours, la mine de ces virtuoses a été fermée. Encore un millier d'hommes qui se retrouvent sans travail et ils n'ont pas perdu que leur boulot. Beaucoup de ces mineurs ont perdu la volonté de gagner. Certains même la volonté de se battre. Et pire encore, j'ai vu un brave garçon de 36 ans perdre l'envie de vivre, de respirer. Ah oui, que si toutes ces victimes étaient des baleines, des phoques, vous prendriez vite les armes. Mais hélas, non, ce n'est pas le cas. C'est seulement des êtres humains, des gens ordinaires et honnêtes. des gens sans espoir, ni avenir qui pourtant aimaient la vie. Oh oui, ce sont tous d'excellents musiciens, c'est sûr. Mais à quoi ça leur sert, bon Dieu? Maintenant, nous allons visiter la capitale. Merci.
Voilà, ça, tout est dit, ou presque. Moi, ce que j'aime bien, c'est maintenant, nous allons visiter la capitale. Et d'ailleurs, après, ils visitent la capitale et ils se font plaisir une dernière fois.
Oui, c'est ça. Et dans la version originale, il dit, maintenant, je vais les amener. Il dit ça, parce qu'elle a dit, on va visiter la capitale. Maintenant, j'ai perdu assez de temps. Enfin, c'est ça qu'il sous-entend. J'ai perdu assez de temps, je vais les amener visiter la capitale.
Oui, c'est maintenant, on a un peu autre chose à faire. César du meilleur film étranger, 1998 pour Les Virtuoses. Film, j'ai oublié de le dire, qui est sorti donc en 1996. Pourquoi c'est un grand et beau film, Paul Dimain?
Parce que...
Peut-être en ces circonstances aussi, on pourrait rajouter dans
Alors, oui. De crise économique. Et là, c'est un choix politique de réorienter autrement l'économie en disant le charbon, c'est terminé. Il faut donc fermer les mines, même si elles sont rentables. Et là, dans cette petite ville, il y a quand même 250 000 chômeurs. C'est-à-dire que la ville est mise à plat. Et dans le discours final, là, Danny, qui se réveille, il était focalisé complètement sur sa fanfare, un chef rigide, mais qui tenait ses troupes en même temps qu'il les menait vers la victoire, mais de façon assez militaire. Et là, il dit, mais je croyais qu'il n'y avait que la musique, mais la musique, c'est rien à côté de ces hommes et de ces femmes qui se sont battus. Et à un moment, il est pris d'émotion, avec un peu des sanglots dans la voix, parce que quand il parle d'un mineur de 36 ans qui perd le souffle, il parle de son fils, qui, pour respecter l'engagement de son père, va s'endetter pour acheter un nouveau trombone alors qu'il n'y a plus de sous dans la maison, que sa femme le quitte avec les enfants parce qu'il n'y a plus de quoi vivre. Là, il réalise qu'il est passé à côté de quelque chose. Et c'est presque un drame grec ou classique. Il y a la dure réalité de la vie, il y a cet élan des hommes, et puis le chef qui découvre autre chose. Et puis... cerise sur le gâteau, il y a Andy et Gloria qui enfin peuvent s'aimer. Et Gloria, qui était suspectée d'être traître du côté des patrons, c'est elle qui renfloue
la caisse
de la fanfare et qui permet d'aller jusqu'à Londres pour se présenter au concours national.
Louis-Marie Soler, si vous deviez compléter et dire pourquoi, pour vous, et peut-être pour d'autres raisons, c'est un grand et beau film. À voir, surtout en ce moment.
Eh bien, parce que toute la force du film, c'est l'oscillation permanente des personnages entre l'euphorie et le désespoir. Quand ils sont ensemble, qu'ils font de la musique, ils sont contents et heureux. Et quand ils sont chacun chez eux, c'est terrible. C'est l'horreur, c'est les humiliations, les dettes, les créanciers. Et donc, c'est ça qui fait que le film est fort. Et puis Marc Herman a ce constant souci d'équilibre. Et à ce moment-là, il cesse d'être comme un documentariste. Hein, le film cesse d'être un documentaire sur des animaux curieux. Hein, parce qu'à un moment, il y a de l'humour dans le film, on rit bien. À un moment, il y a un des joueurs de la fanfare à qui répond à une question. Une dame, une bourgeoise, visiblement, lui a demandé ce qu'il était. Puis il lui dit, je suis un mineur. Mais si, vous savez, dinosaures, brontosaures, mineurs, tous ceux qui ont disparu, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Il ne fait pas un documentaire sur ces animaux curieux que le thatchérisme a décimés.
Voilà, un film à revoir en ces temps de crise, même si on espère que l'industrie française, qui a déjà été bien saignée, elle, ne continuera pas. Alors, on parle de relocalisation. Espérons qu'on aura des films qui raconteront d'autres histoires quand on parlera des années 2020. Mais rien n'est sûr. On fait une première pause musicale, on vous retrouve. On écoute.
Eh bien, justement, le morceau qui fait gagner la fanfare. We'll be right back.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, votre émission cinéma Vivante Église, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, ce vendredi, avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 20h, 19h20h. Mercredi soir, pardon, 19h20h, Paul Dima, animateur de retraite cinéma pour les Cotopaïs, ces centres jésuites dans le sud-ouest, et tous deux animateurs du Ciné-Parole, ce ciné-club. Donc au cinéma L'ABC, cinéma d'art et d'essai à Toulouse, qui est suspendu en cette fin d'année pour les raisons que vous imaginez, qui reprendra certainement à la rentrée.
Non, c'est le 22 juin.
Vous reprenez le 22 juin ?
Ah non, je parlais des cinémas.
Vous avez raison de redire que c'est le 22 juin pour les cinémas.
Mais, non mais justement, on risque de reprendre à la rentrée grâce à ça.
Il faudra s'y précipiter. Allez, deuxième film, Shine. De Scott Hicks, autre histoire, comme je le disais en introduction, qui parle aussi de la fragilité. Histoire vraie, qui est l'histoire de la vie d'un pianiste de génie, David Elfgott, comme ça qu'on dit, Louis-Marie ? Elfgott.
Oui.
On écoute la bande-annonce, qui est essentiellement en musique. Pour un pianiste, c'est normal.
Sylvia, ton chat de gouttière remet ça.
Tu veux que je t'en débarrasse ?
Non.
Alors, mon petit père, tu vas nous jouer un petit quelque chose ?
Oui, mon petit père, un petit quelque chose.
Oh, bravo, bravo, bis ! Allez, vas-y, chauffe, Rubinstein.
Bon, ça suffit, Sam. David.
S'arrêter là pour la bande-annonce, parce qu'à la fin, ils ne font qu'applaudir, et celui qui a été insultant avec lui est confondu, mais on n'entend pas grand-chose d'autre. Donc Shine, c'est donc l'histoire de ce pianiste, David Elfgott, un pianiste australien né à Melbourne, donc en Australie, qui est un génie, comme il y en a, qui donc fait preuve dès son plus jeune âge de dons exceptionnels, homme qui va connaître de graves troubles psychiques, qui vont le faire plus que vaciller. Et après, c'est un peu l'histoire de la reconstruction de cet homme, ou en tout cas du triomphe au cœur de sa fragilité, entre autres grâce à la rencontre de son épouse, Gillian Murray. Il y a d'autres personnages dans cette histoire que je vais vous laisser présenter. On peut dire d'ores et déjà que c'est un film qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprète principal, qui est Louis-Marie ?
Geoffrey Rush.
Sur l'histoire, un petit peu plus.
Ben vous avez dit l'essentiel. C'est la façon dont qui est originale, un petit peu originale, c'est des choses qu'on a déjà vues au cinéma, mais que choisit Scott Hicks pour raconter l'histoire, puisque ce qu'on entend là, dans la bande-annonce, qu'on voit, c'est pas ce qu'on voit au début du film. Au début du film, on le voit, et effectivement arriver dans ce restaurant, mais pas de la même façon, c'est plus tard. Et on suit cet homme qui a ce débit très particulier, qui a marché sous la pluie. Il y a quelque chose qui l'a fait frapper à la porte de ce restaurant. On se demande ce que c'est, on comprend vite ce qu'il a attiré. Ce qu'il a attiré, c'est le piano. Il y a un piano dans le restaurant. Et à partir de là, on va découvrir pourquoi le piano l'attire. Mais on ne sait pas vraiment tout de suite, parce que... On ne sait pas vraiment tout de suite, parce qu'après, on passe de lui à un enfant. Et alors, on comprend évidemment que cet enfant ne peut être que lui, mais ce n'est pas tout de suite évident. Et après, on voit cet enfant qui participe à un concours de jeunes musiciens et il monte sur la scène pour jouer un morceau de piano déjà difficile à jouer pour l'âge qu'il a.
Alors, vous avez continué, avant qu'on creuse l'histoire, et nous parler du réalisateur Scott X. J'ai cru comprendre que c'était son film.
Oui.
Film qui a donc connu un succès certain, qu'il a mis beaucoup de temps en fait à préparer, qu'il a porté
il a mis 10 ans
dans ses tripes, et après il a eu du mal à faire aussi bien presque.
C'est-à-dire qu'il a frappé fort, il avait déjà fait des choses avant, hein. il était surtout connu comme documentariste. Il est lui aussi australien. En fait, il n'est pas australien. Il vivait en Australie. C'est ses parents qui sont venus s'installer en Australie. Lui, il est né en Afrique. Je crois qu'il est né en Ouganda. Son père étant ingénieur, donc la famille a beaucoup voyagé. Et c'est à l'adolescence qu'il est arrivé en Australie. Et c'est là qu'il a découvert le cinéma. Il a commencé comme documentariste. Et puis, il a tourné pour la chaîne américaine Discovery Channel, des documentaires sur les requins en particulier. Et pendant 10 ans, il avait ce projet en tête, l'histoire de
vous en savez
de ce
un peu
pianiste.
Plus qu'est-ce qui le fascinait? Qu'est-ce qui l'intriguait? Vous n'en savez pas plus par hasard?
C'est-à-dire, ce qui le fascinait, c'est comment cet homme qui était promis à une carrière extraordinaire de concertiste, eh bien, ça a tourné court et on l'a redécouvert sur le tard. Et en fait, finalement, on l'a redécouvert sur le tard grâce au film. Grâce au film, c'est ça. C'est ce qui l'intéressait à Scott X, c'est de voir comment cet homme qui était brillantissime au piano a sombré dans la schizophrénie, était une maladie mentale de genre. Il a subi des traitements terribles, des camisoles chimiques et même des électrochocs. Donc c'est extraordinaire de violence et qu'il a pu finalement revenir au devant de la scène parce qu'il est... C'était foncièrement quelqu'un de bon et qui aimait le piano et qu'il est tombé sur des gens qui ont su l'apprécier, qui ont su l'aider, comme cette femme Gillian qui est devenue son épouse.
Alors on va revenir un tout petit peu en arrière, il y a un autre personnage, c'est son père dans le film. On écoute un extrait pour en parler tout de suite après.
C'est d'Amérique! On nous a parlé de votre talent exceptionnel et nous nous considérons privilégiés du fait que durant vos études, vous habiterez avec nous. Nous sommes certains que vous vous sentirez ici comme chez vous. Nous avons fait accorder notre Bösendorfer spécialement pour vous. Nous avons été heureux d'apprendre l'imminence de votre arrivée.
L'imminence, crétin. Je me demande s'ils ont une Cadillac.
L'imminence de votre arrivée. Nous sommes impatients de vous entendre jouer bien amicalement Simon et Bacha Mickelberg.
On relis-la, vas-y.
Chut! Vous allez réveiller le bébé.
Vous apprécierez la compagnie de notre perroquet et de notre petit chien qui s'appelle Margaret.
Salpeste, c'est pas vrai. Salpeste, c'est vrai.
Ça suffit. Ça suffit. Éteins la radio et donne-moi cette lettre. David n'ira nulle part.
Papa!
Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder? David n'ira pas en Amérique. Je ne laisserai personne détruire cette famille!
Papa, je vous en prie, ne dites pas non.
Écoute, David, je suis ton père. Je sais ce qui est bon pour toi. C'est moi ton père et ceci est ta seule famille. David! David, reviens ici! Reviens!
Paul, quel commentaire ça peut attirer, peut provoquer.
Ce père qu'on sent tyrannique, il est juif polonais et sa famille a été exterminée. Il y a dans l'espace familial les tableaux, les portraits des ancêtres qui ont fini en camp de concentration et qui ont été exécutés. Et donc, pour ce père, la famille, c'est sacré. Et lui, il a un rôle sacré dans cette famille qui est intouchable. Et c'est lui qui par amour, mais en même temps un amour qui écrase, qui sait ce qu'il faut pour son fils, qui sait ce qu'il faut pour sa famille. Et personne ne pourra remplacer la place qu'il doit occuper. Et dans la première séquence qu'on a présentée tout à l'heure, on voit bien où ça aboutit. Il y avait la fragilité psychique du pianiste, mais il a été toute sa vie tiraillé par ce génie qui l'habitait, sa passion pour le piano et le diktat de son père qui lui refusait tout. Ça pouvait passer que par lui. Et son père lui donnait un objectif de jouer une pièce impossible à jouer pour un enfant de son âge. Et donc il était, mais parce qu'il devait y arriver. Et en même temps, il interdisait à quiconque de jouer un rôle de professeur auprès de lui. C'était lui et lui seul, qui pouvait savoir ce dont son fils avait besoin, et lui seul pouvait le lui apporter. C'est terrible.
Et à côté de ça, ce qu'il faut rajouter, en plus de la difficulté qui résidait, comme vous l'avez dit, Paul, dans le fait que le papa était un miraculé des camps de concentration, il était aussi un musicien frustré. Il était un musicien frustré parce qu'il racontait toujours l'anecdote plusieurs fois. Il la raconte à son fils, et donc la première fois d'ailleurs, même son fils la raconte à sa place. Et puisqu'il dit « Tu sais ce qui s'est passé pour moi ?» Oui, et il raconte toujours l'histoire de ce violon qu'il avait pu s'acheter parce qu'il avait économisé sou après sou, et dès que son père l'a vu, il a détruit le violon. Et voilà, ça, il y a entre cette violence, il voulait jouer de la musique, et le fait qu'il ne veut pas que sa famille soit séparée, fait qu'il a ce côté phagocytant, terrible, tyrannique avec son fils.
Ce fils, donc, qui avait étudié au Collège Royal de Musique, l'un de ses professeurs avait dit qu'en 25 ans, il n'avait jamais vu un élève aussi doué, qui donne donc un concert, lui aussi, au Royal Albert Hall, et qui après donc tombe malade pendant 10 ans, quelque part qui s'absente, et qui rencontre donc et épouse Gillian Murray. Je vous laisse introduire le deuxième extrait, Louis-Marie.
Oh ben c'est une...
Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, notre héros ?
Là, dans l'extrait, rien de particulier. L'extrait, pardon.
Il se baigne quand même.
Ah oui, pardon, excusez-moi, je me mélangeais un petit peu. C'est moi qui baignais. C'est-à-dire qu'il a des accents. Ce qu'il aime beaucoup, c'est se baigner. Hein. Et là, il est dans une phase où il a rencontré sa femme. Et il est avec elle d'ailleurs, et il va rejouer en public. Et il se baigne dans la piscine, évidemment, il est nu, et il a plongé dans la piscine avec les partitions qu'il doit interpréter le soir même.
Oh non, pauvre Ravel.
Oh, pauvre Maurice, il s'effiloche, il est tout effiloché.
C'est l'heure de se préparer, David.
Je peux rester encore un peu,
bon, chérie. D'accord, 10 minutes, pas plus. Fais un peu de lisse.
D'accord.
Pas le concerto. Nage sur la campanella. Ah, oh, tout ira bien.
Oh, j'ai mal tourné, chérie, j'ai mal tourné.
Eh bien, reprends-toi, chérie. La page 37. Où est la page 37?
Oh, c'est la connard, c'est la fin, c'est le commencement de la fin. Oh, ça, c'est... Je vais faire cramper mes mains.
David?
Ah, ah, je l'ai. Oh, des chaussures dépareillées. Et c'est ton premier concert depuis des années. Oui, toute une nouille. Assis. Redresse-toi.
Redresse-toi.
Nous sortons la voiture.
Relax.
Relax. Relax.
C'est parfait.
Cette femme donc qui redonne la vie quelque part à son mari. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet amour que d'aucuns auraient vite qualifié de bien particulier ou de trop particulier, Paul Dimain?
Oui, on pourrait même dire que c'était de la folie pure d'épouser un homme qui était quelque part en lambeaux quand même. Dans un espèce de délire plus ou moins permanent, une logorée verbale. Il parle à toute vitesse comme ça, on ne comprend pas trop ce qu'il dit, et il est toujours traversé par mille idées en même temps, et en même temps il est en train de se reconstruire et de se remettre au piano avec la maîtrise de son art et son génie, mais toujours un peu perturbé, ou profondément même perturbé. Il se promène tout nu, voilà. Eh bien, elle ne s'arrête pas à ça.
Elle voit au-delà.
Elle voit ce qu'il est, un grand artiste. Et,
elle a vu ça, mais aussi, elle est astrologue.
Oui.
Elle est astrologue et elle a fait son thème astral.
Oui.
Elle a fait le thème astral de
et
de,
elle sait de, qu'il y a voilà.
Il y a bien quelque chose qui se passera entre eux.
Une convergence.
Voilà.
Alors pourquoi c'est un grand et beau film, même si on le devine bien évidemment à travers ses extraits et puis à travers cette histoire. Elle est Louis-Marie Solaire.
Mais c'est pas tant. Je pense que le succès de ce film réside dans la qualité de l'interprétation. Plus que dans la qualité de la mise en scène qui, somme toute, est assez classique. Mais l'interprétation, bon, Geoffrey Rush, qui incarne David Helfgott adulte, hein, il faut pas minimiser la performance de Noah Taylor, qui l'interprète plus jeune, qui est lui aussi remarquable.
Remarquable.
Il est remarquable. Quand il est adolescent, quoi, jeune adulte. Mais Geoffrey Rush est extraordinaire. Il est littéralement extraordinaire. Il est là, c'est ce que décrivait Paul dans cette logorée verbale. Il est parfait, il parle dans tous les sens, il touche les gens, il touche les choses, il embrasse, il a des façons de s'approprier les gens. C'est pour ça qu'il inspire la sympathie. C'est ce qui va lui servir, qui va lui permettre de retrouver, de se reconstruire, parce que cet homme a été déchiré à la fois, c'était trop pour lui, ce piano et ce que voulait son père de lui, et il est finalement un homme qui attend quelque chose des autres, et les autres sont prêts, pour certains en tout cas, à le lui donner, cette femme en particulier. Je dis Geoffrey Rush, vous connaissez son visage, c'est le film qui l'a révélé, mais c'est le capitaine Barbossa dans le Pirates des Caraïbes.
Paul Dima. Pourquoi vous trouvez que c'est un chef-d'œuvre, puisque c'est en tout cas pour ce deuxième film, on respecte nos catégories habituelles.
C'est un chef-d'œuvre parce que le réalisateur, Scott Hicks, a choisi de s'intéresser à une histoire dont on aurait pu dire, bah, de toute façon, oui, c'était quelqu'un de malade, quoi. Bon, invivable, et eh bien il montre, il a contribué d'ailleurs dans la vie réelle par son film à ce que non pas son personnage mais le pianiste soit remis en scène au sens propre du mot, c'est-à-dire que le film a redonné vie à sa carrière qui tombait en lambeaux.
Ah oui, oui, c'était...
et donc là il y a un rapport entre regard cinématographique sur ce personnage par le réalisateur, et puisque ça lui a permis dans la vraie vie. C'est-à-dire, il y a une rencontre qui est intéressante. Les gens ont découvert que, et on le voyait dans la première scène, c'est une espèce d'épave perdue. Hein. Et puis, il dit, allez, fais ton Rubinstein. Et le souffle coupé par derrière ce pantin, un peu, vu de l'extérieur. Il y a un génie extraordinaire et le film le révèle. Voilà.
Shine de Scott Hicks. Louis-Marie, la deuxième musique, c'est du Shine ou c'est...
C'est Shine, oui.
C'est Shine.
Exactement. Mais ce n'est pas un morceau classique, c'est un morceau de la bande originale. Parce qu'on entend beaucoup de morceaux classiques, bien sûr, mais pas celui-là.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, animateur de retraite cinéma pour les Coteaux-Pays et centres jésuites dans le sud-ouest, pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Troisième film, donc Jeanne de Bruno Dumont. On va tout simplement commencer par écouter la bande-annonce. Jeanne, en l'occurrence, c'est Jeanne d'Arc.
C'est de votre faute si nous avons perdu la bataille. Vous ne savez pas parler aux soldats. Les soldats, ils veulent se battre. De la guerre, de la victoire, du sang surtout.
Celui qui dit ça, c'est le dernier des hommes.
Parlez, ma fille.
Je voulais vous parler pour vos villes, que les Anglais vont assaillir au-delà.
Laissons cela. Il est temps de vous reposer enfin.
Je m'en vais commencer la bataille à moi seule.
Seigneur, voici l'accusé.
Je requiers expressément
avec
que le juge la déclare hérétique
et mort d'année
sans débat, par défaut.
Avec les condamnés.
Je ne suis pas hérétique, je suis bonne chrétienne.
Alors, elle n'a plus besoin de nous.
Vous soumettez à l'Église tout ce que vous avez fait ?
Mais oui, mon maître, je veux bien, moi.
Tout ! Sans exception.
Tout sans exception.
Sans aucune exception.
Sans aucune exception.
Jamais on n'a demandé ça à une hérétique.
À condition, bien entendu, qu'on ne parle pas de tout ce que notre sire Dieu m'a dit et commandé pour moi seul.
Les hommes sont impies. Les hommes sont cruels. Voleurs. Menteurs.
Les hommes sont comme ils sont. Mais il faut penser, nous, à ce qu'il faut que nous soyons.
Voulez-vous désavouer les réponses que vous nous avez faites ?
Quand vous me feriez couper la tête et détraire tous les membres de mon corps, je vous assure que je ne renoncerai jamais à un mot de tout ce que j'ai dit.
Jeanne de Bruno Dumont, c'est un film français sorti en 2019. Probablement qu'un certain nombre d'entre nous sont passés à côté. L'histoire, c'est donc l'histoire de Jeanne d'Arc, même si en fait c'est le deuxième film en fait de deux films sur Jeanne d'Arc. Vous nous direz, voilà. Vous me faisiez les gros yeux tout d'un coup. Je me disais que je m'étais trompé.
Non, c'est ça. Bruno Dumont.
Voilà, il y a deux du même Bruno Dumont. Il y a en tout cas deux grandes parties dans ce film. Il y a une évocation donc de la guerre, la guerre de 100 ans. Jeanne est aux portes de Paris, l'assaut est donné. Elle fait face à un échec, même si vous allez nous expliquer, en fait, on ne voit rien. Et puis, après, suit le procès et le reste. C'est un film donc, qui a été salué par la critique, qui est très original. La bande-annonce le laisse entrevoir. Je citerai juste quelques-unes de ces critiques qui, dans l'ensemble, sont très très bonnes. Le Monde. Tout ici fait signe vers un ailleurs qui le transcende. Le film lui-même semble s'être fait en luminure. La Croix. Et puis il y a Jeanne et sa toute jeune interprète, Lise Leplat Prudhomme, 12 ans, déjà à l'affiche de Jeannette. Elle y est étonnante d'assurance et de maturité, et son regard sombre, filmé en gros plan, ne restera longtemps en mémoire. Je pourrais en citer d'autres. Il faut dire que c'est un film, c'est comme ça que je l'introduirais, un peu en forme de pièce de théâtre, et inspiré justement d'une pièce de théâtre de Charles Péguy, Jeanne d'Arc, parue en 1897. L'histoire, on va dire, je l'ai résumée, et comme le propos est très particulier, peut-être sur le... Est-ce qu'on peut dire, Paul, que c'est une pièce de théâtre en cinéma ?
Non, c'est un film réalisé à partir d'une pièce de théâtre, mais c'est pas du théâtre filmé du tout. C'est-à-dire qu'il y a une recréation assez extraordinaire par les choix de cadres. Ça se passe en partie sur les dunes du nord de la France. Les prisons anglaises, c'est des blockhaus. Ça se passe dans la cathédrale de... Je ne sais plus quelle cathédrale.
Amiens,
oui, c'est ça, dans la cathédrale d'Amiens.
Enfin, ça, on ne le dit pas dans le film.
Non. Et il choisit...
On peut reconnaître le labyrinthe.
Non, oui, mais peu importe, parce que de toute façon, elle est jugée à Rouen.
Elle est jugée à Rouen. Donc, oui. C'est pas un film qui veut être historique, au sens moderne du terme. C'est un film qui s'intéresse à l'histoire profonde et symbolique de Jeanne, qui est en contact avec Messire Dieu. Et c'est une enfant, l'actrice a 12 ans, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais qui lui donne une force extraordinaire, en particulier au moment du procès. Elle est filmée souvent en gros plan et le regard, et elle ne lâche rien, comme on dirait aujourd'hui, devant des juges très savants, très doctes, ridicules, c'est-à-dire que ils pérorent, ils argumentent.
Et joué comme tel, hein, pour un certain nombre.
Ah oui, bien sûr.
Ridicule et largement assumé. C'est...
Oui, oui, et amplifié même. Et face à eux, cette petite fille, enfin cet enfant, qui est une enfant, qui incarne la force tranquille, j'allais dire, mais plus la confiance qu'elle a en son Seigneur Dieu et aux voix qu'elle entend. Et elle dit à ses juges, mais ça ne vous regarde pas.
Dites-nous quelques mots du cinéma de Bruno Dumont, Louis-Marie Soler. Bruno Dumont, on peut citer d'autres films, La vie de Jésus, L'humanité ou Flandre, peut-être qui est...
Attention, La vie de Jésus n'a pas à voir avec Jésus.
Oui.
C'est le nom du personnage.
S'entend. L'humanité et Flandre, alors
c'est important.
Peut-être que c'est Flandre qui est le plus connu.
L'humanité.
L'humanité pardon,
Flandre, ouais. Et puis le dernier, Malout.
Le parti pris de son cinéma, en tout cas.
Ouais, le parti pris de son cinéma, c'est souvent, le plus souvent, de prendre des interprètes, des acteurs inconnus, voire non professionnels. Le plus souvent, c'est ça. Il a fait une entorse à cette règle dans Malout, où alors là, par contre, il a une brochette de vedettes toutes plus célèbres les unes que les autres. Hein. À commencer par Juliette Binoche, je crois, il y a Fabrice Luchini, je dis ça de mémoire. Enfin, c'est dans ma loute, c'est assez extraordinaire. Et puis, il est revenu à cette épure avec Jeannette, dont vous avez parlé, Emmanuel, qui est...
Sur l'enfance de
sur
Jeanne d'Arc.
Sur l'enfance de Jeanne d'Arc. C'est pour ça que, comme il avait tourné 2 ou 3 ans avant Jeanne, il a pris la même interprète. Qui a vieilli, qui jouait le rôle de Jeannette à 8-9 ans, et elle joue le rôle de Jeanne, donc, 3 ans plus tard, donc à 11-12. Bruno Dumont tourne toujours un petit peu. Alors, on l'y a souvent, on l'a accusé de tourner en ridicule ses acteurs, parce que non seulement il prend des noms professionnels, mais souvent il prend des gueules. Des noms professionnels, c'est des gueules qui ont peut-être parfois même des problèmes à la fois peut-être un peu psychiques ou mentaux, en fait. Des choses très... ils sont un peu marginaux, mais pas tous. Hein, c'est comme ça. Enfin, ça se voyait dans ces films. Et ça se voit en particulier dans Jeanne, puisqu'à l'exception de la jeune enfant, qui au départ n'était pas une actrice non plus, on ne voit que deux, et encore un seul acteur professionnel, c'est Fabrice Luchini. C'est
alors,
le seul.
Donc, des amateurs, ça c'est un choix fort. Les autres choix forts, peut-être la manière de filmer.
Et puis alors, c'est dans son film, il joue toujours, mais dans sa manière de filmer, il s'arrange pour tordre un peu la réalité et utiliser des choses qui apparaissent banales dans le paysage et qui vont devenir des choses essentielles de ces décors. Hein, on le voit très bien dans Jeanne, Paul en a parlé. On est dans les dunes normandes, probablement. Tout le début, quand on la voit parler avec des seigneurs, avec des hauts prélats aussi, c'est dans le sable. Et en fait, on comprend que c'est pas là que ça devrait se passer. Ça devrait se passer dans un château aux portes de Paris. Non, ça, c'est là, on comprend qu'il évacue toute la reconstitution historique elle-même du décor en se mettant au bord, voilà, au bord de la mer. On se doute que c'est la mer, même si on ne la voit pas, hein, puisqu'on est dans les dunes. Et comme le disait aussi justement Paul, après il utilise les vieux blockhaus allemands de la Deuxième Guerre mondiale, ce seront les prisons anglaises. Voilà. Et puis entre les deux, il y aura cette fameuse cathédrale où aura lieu le procès. Voilà. Il joue sur la temporalité, en fait, dans ce film. Il en fait quelque chose de finalement contemporain. Même si on est au 16e, hein, au 15e siècle, puisque c'est 1429. Hein.
Et puis de temps en temps, il y a des petites surprises dans le film, on va en écouter une.
Oui.
Oh mon Dieu, je savais la douleur des batailles. un fou s'est rué à l'assaut. Je savais, oh mon Dieu, la douleur des batailles quand les assaillants.
Alors la surprise, c'est...
C'est Christophe. La musique du film est composée par Christophe. Elle est à la fois classique et électronique.
Christophe, un chanteur connu.
Oui, qui malheureusement nous a quittés. Il y a peu de temps, on en a parlé. Et il apparaît aussi dans le film. C'est ça la surprise. Alors la surprise qui peut agacer. On comprend pourquoi le film est un peu agacé. Parce qu'il est austère, je le disais. C'est le parti pris de la mise en scène et des personnages, et surtout des acteurs qui sont choisis pour interpréter ces personnages. Et à un moment, on voit apparaître Christophe. On ne sait pas que c'est lui. Effectivement, il n'est pas sans rappeler un personnage de La Guerre des Étoiles. Dans sa tenue, On voit cet homme avec la capuche,
on voit pas son visage,
et puis il va se tourner, c'est le moment, c'est une des phases du pro, et il va interpréter la chanson qu'on vient d'entendre, et on peut considérer que la musique fait elle aussi corps, et même est un personnage même de l'histoire, de la façon de raconter cette histoire et ce procès.
Alors, pour ceux qui ont eu du mal à rentrer dedans, qui auront du mal, pardon, à rentrer dedans, et moi, j'ai eu du mal, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Paul, de plus ? C'est-à-dire, est-ce que on peut apprécier ce film sans avoir tous ces attendus et toutes ces clés de compréhension intellectuelle ? Bref, c'est coup de cœur ou coup de rejet, à votre avis, pour un film comme ça ?
C'est-à-dire que c'est un film dérangeant, parce qu'il ne correspond à aucune image disponible de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc habite l'inconscient des Français, on la voit sur son cheval, on la voit cuirassée, etc. Et puis la Jeanne qu'on voit ici, ben, elle ne ressemble pas du tout à l'image qu'on en a. Donc on est déstabilisé, déplacé. C'est une enfant, c'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que tout ce truc-là ? Et en plus, la voix de Christophe, le chant, il chante le texte lui-même de Peggy, avec une voix très haut perchée, et à la limite de la fragilité, de la cassure, de la fêlure. Et l'extrait qu'on entendait, là, j'ai connu la douleur d'être chef de bataille et répéter, répéter, répéter. C'est-à-dire que c'est Jeanne qui s'exprime là, par la voix. Elle dit son combat, elle dit que c'était une douleur pour elle, mais qu'elle a mené le combat quand même. J'ai connu la douleur d'être chef de bataille.
Alors moi, il y a une chose quand même qui m'a frappé dans le film et touché, c'est que cette Jeanne, on sent qu'elle fait sa part aussi dans cette aventure. Elle ne vit pas constamment avec des voix et elle fait ça au milieu d'un monde, on va dire, plus que très ordinaire en fait.
Tout à fait, même trivial, enfin, ras de terre. Et elle suit son projet, prend des décisions, y compris elle se trompe, elle se fait battre, etc. Et puis elle est livrée aux mains des Anglais. Mais même à ce moment-là, elle fait montre d'une liberté et d'une détermination qui laisse ses juges, ils se prennent les pieds dans le filet, quoi.
Et ben voilà, Jeanne de Bruno Dumont, c'est donc le chef-d'œuvre spirituel de ce mois. Voilà, en tout cas, c'est votre choix. Et vous nous avez certainement convaincu, en tout cas moi presque, de le revoir. Shine de Scott X et le premier, Les Virtuoses de Marc Herrmann. Les Virtuoses, Marc Herrmann, Shine, Scott X, Jeanne de Bruno Dumont. Un grand merci, messieurs, d'être fidèles à ce rendez-vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.